RFI 18h30. Ici à Paris, on parle de la Syrie de demain, ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et il semble que les nouvelles autorités syriennes ne veuillent pas perdre de temps alors que le monde est encore sous le choc de la chute dimanche du président Bachar al-Assad. Ce mardi, un chef de gouvernement transitoire a été nommé en Syrie. Jusqu'à maintenant, le chef de HTS, le groupe qui a fait tomber le régime syrien, semble soucieux de la cohésion du pays. Il multiplie les mains tendues à l'égard des minorités ethniques. On est loin, on est très loin du combattant d'Al-Qaïda en Syrie et en Irak qu'il a été par le passé. Face à cette donne, notre question ce soir, faut-il faire confiance aux nouveaux dirigeants syriens? À quel type de gouvernance peut-on s'attendre? Quels sont les défis qui s'annoncent? Et comment éviter que l'après Assad aboutisse à un fiasco similaire à ce que l'on a pu voir à l'étranger en Irak et en Afghanistan notamment? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Mohamed Nourayed, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, conférencier franco-syrien. Face à vous, Pierre Boussel, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Notre troisième invité en ligne avec nous, Cyril Blin, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur des opérations à la Fédération internationale pour les droits humains. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Là, pour commencer, qui est HTS, Pierre Boussel? Est-ce qu'on peut le rappeler pour nos auditeurs? D'où vient ce groupe? Et puis, quelle est l'histoire de son chef, dont il est beaucoup question, évidemment, depuis dimanche?
Absolument. HTS, donc, c'est un homme, c'est Al-Julani. Al-Julani, c'est un homme qui, par sa personnalité, engage l'avenir de la Syrie. Il a une première série d'années, jusqu'à 20 ans. Il habite Damas, il est issu d'une famille bourgeoise, son père est économiste, c'est quelqu'un qui ne trahit aucun signe de religiosité extrémiste. Il est tout à fait intégré, et aujourd'hui c'est important parce qu'il connaît Damas, il connaît la complexité de la mosaïque syrienne. Et puis, il se passe le 11 septembre 2001, et là, il part en Irak, Zarqawi. Ensuite, il est arrêté, il va à la prison de Bouka, et là, il rencontre un certain al-Baghdadi, qui va créer le groupe État islamique, que l'on connaîtra sous le nom de Daesh, entre 2014 et 2019. Il est donc en prison, et puis il discute avec al-Baghdadi, et il dit, voilà, moi j'ai une idée, on va aller créer le djihad en Syrie. Il écrit 13 pages, dans lesquelles il va résumer son projet. Al-Baghdadi lui dit, ok, tu pars. Il part en Syrie, et c'est comme ça que cet homme va porter le djihad en Syrie. Ça se passe mal avec al-Baghdadi, parce que le groupe État islamique est ce que l'on sait. Et donc, à ce moment-là, il s'oriente vers Al-Qaïda et il va rompre avec Al-Qaïda, mais pas de façon très claire. Il prend ses distances. Donc là, c'est la deuxième partie. Donc la première séquence, enfance bourgeoise. Le week-end, il va travailler à l'échoppe du coin.
On ne va pas revenir, oui.
Ensuite, il rentre dans le djihadisme armé,
okay.
Ultra-violent. Et ensuite, année 2019-2021, il va rentrer dans ce qu'on peut appeler le néo-islamisme. C'est-à-dire qu'il y a un islamisme qui devient beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire qu'il existait, par exemple, une police religieuse à Idlib, Al-Jabal.
Donc c'est là où il fondit HTS.
C'est là où son groupe HTS... HTS, si vous voulez, si je peux me permettre, je voudrais juste biaiser cette réponse parce qu'en fait, HTS a eu plein de noms. Et en fait, les noms ne sont pas si importants que ça. Ce qui compte, ce sont les hommes parce que les noms ont changé en fonction des configurations géopolitiques. Pour nous, le nom d'un groupe est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est un référent. Dans l'imaginaire radical, le nom finalement est quelque chose d'accessoire. D'ailleurs, vous noterez qu'il change par exemple de nom de famille aujourd'hui pour endosser des responsabilités politiques.
Oui, effectivement. Il s'appelait Abu Mohamed Al-Julani et depuis quelques jours, voilà, il utilise son vrai nom, Ahmed Al-Shara. Mais est-ce que vous diriez que HTS, l'origine, l'histoire de HTS, c'est fondée sur le djihadisme?
L'origine est fondée sur l'islam radical, un islam combattant qui va être... En fait, HTS, si vous voulez, c'est une fédération... non pas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 groupes, de dizaines deux groupes, d'accord, qui sont tous globalement d'accord sur le même projet, mais simplement qui vont avoir des avis. Non, il faut plutôt fonctionner comme ceci pour que la Syrie et soit un théâtre d'expression pour l'islam radical. Alors après, dans la radicalité, le curseur, vous pouvez le déplacer. Hein. Vous pouvez être un petit peu radical, très radical, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, HTS, c'est un groupe, mais surtout, c'est une myriade de groupes, de dizaines de groupes, ce qui fait qu'aujourd'hui, Al-Joulani, c'est très compliqué pour lui, parce qu'il est patron d'un groupe. Mais non, il est patron de dizaines de groupes qui ont des comportements et des attitudes qui sont différents les uns des autres.
Et ça complexifie encore la donne dans une Syrie où il y a une myriade de minorités ethniques,
absolument,
pourrait-on dire, également Mohamed Nourayed. Vous qui êtes franco-syrien, vous étiez en Syrie jusqu'en 2014. Que vous inspire ce groupe HTS qui a pris le pouvoir en Syrie?
Alors, ce groupe HTS qui a pris le pouvoir en Syrie, comme on l'a dit, il est en réalité aux commandes de l'opposition, on va dire, armée depuis un certain temps. Donc auparavant, sous le nom de Jabhat al-Nusra, le front al-Nusra, qui était lié à Al-Qaïda, et qui, en 2017, décide de devenir un mouvement national et promouvoir le djihad national en Syrie. Le mouvement HTS, pour moi, c'est une autre facette, je dirais déjà, d'Assad, puisque dans les mois précédents, juste avant l'offensive, l'autorité de HTS a été énormément contestée par les populations civiles à Idlib et dans la banlieue d'Alep. La réponse d'Al-Joulani a été pareille à celle d'Assad en 2011, c'est-à-dire on tire sur la foule, on envoie les blindés et on mène des rafles pour emprisonner les personnes. Donc HTS, c'est d'abord une volonté d'asseoir une autorité sur la population civile qui est meurtrie par la guerre et qui est bombardée intensément. Et c'est aussi la volonté d'imposer une hégémonie militaire. Pendant très longtemps, lorsqu'il y avait des batailles, HTS interdisait à tout autre groupe ou toute autre faction qui ne faisait pas partie de son groupement de saisir des armes lourdes, que ce soit de l'artillerie, des chars, etc. Et s'accaparer toutes ces prises de guerre, on va dire, pour pouvoir imposer son hégémonie militaire.
Mais la méthode a changé. C'est uniquement la façade, là, ce qu'on voit depuis plusieurs jours, les mains tendues que le chef de HTS multiplie à l'égard des minorités ethniques, le souci à l'égard, on va en parler, des institutions. Il a appelé à ne pas s'approcher des institutions publiques qui vont rester sous le contrôle de l'ancien Premier ministre.
Alors, pour moi, il faut se méfier du discours d'un homme qui s'appelle Abu Mohammed al-Joulani, qui s'appelle aujourd'hui Ahmed al-Shara, puisque, comme on l'a dit, il est très intelligent. Il a été formé pendant très longtemps, a très bien choisi le moment opportun de créer son groupe et a choisi de modérer son discours. Mais si on regarde dans les faits, c'est vrai qu'il a un discours, on va dire, plutôt apaisant, comme le disent les États-Unis, comme le disent beaucoup de personnes. Mais si on regarde dans les faits, il prêche quand même un djihad. Il prêche l'établissement, il le disait déjà à Idlib, je veux créer un État islamique sunnite à Idlib. Donc le voir à la tête de la Syrie, c'est voir une révolution de 13 ans, presque 14 ans, volée au peuple syrien. Et je pense qu'aujourd'hui, il est très important de se rendre compte que le gouvernement provisoire qui a été mis en place, le gouvernement du salut syrien, et à sa tête donc Mohamed el-Bachir qui a été nommé Premier ministre de transition, est en réalité lié à HTS. Et ce gouvernement fonctionnait sous l'égide de HTS. Donc il est très important aujourd'hui de se rendre compte que la Syrie est à un moment charnière où on risque de ne pas avoir d'élection dans 3 mois. Le gouvernement provisoire a été nommé pour 3 mois, ouais, mais qu'est-ce qui me garantit
jusqu'au 1er mars 2025.
Qu'est-ce qui garantit aux Syriens que dans 3 mois, on aura un référendum et des élections libres?
Mais ce n'est pas un premier gage rassurant? On parle de est-ce qu'il faut faire confiance aux nouvelles autorités. Est-ce que ce n'est pas un gage rassurant qu'aujourd'hui, un gouvernement transitoire a été nommé?
Alors si, mais moi j'espère que ce gouvernement est réellement transitoire. Et j'espère surtout que on va pas se leurrer, puisque HTS détient encore dans ses prisons des activistes de la révolution syrienne, des laïcs, des personnes qui contestent leur autorité. Et pour moi, déjà Al-Joulani qui proclame une amnistie générale, qui se pose déjà en chef d'État en Syrie, de quel droit le fait-il et au nom de qui? Puisqu'on n'a pas donné le choix aux Syriens de choisir, même le gouvernement du salut n'a jamais été élu. Donc en réalité, oui, c'est un gage de stabilité, puisqu'on ne peut pas laisser le pays ingouvernable. Mais jusqu'à quel point peut-on accepter que des islamistes radicaux, des djihadistes, ce ne sont pas des ex-djihadistes, ce sont des djihadistes qui le sont encore aujourd'hui, et le terrorisme reste présent en Syrie. Donc Je pense sincèrement qu'il faut se méfier d'Al-Jolani, même si on peut se réjouir d'un début de stabilité et d'un début de transition en Syrie.
Cyril Blin, on ne vous a pas encore entendu. Est-ce que vous partagez les inquiétudes de Mohamed Nourayed ou est-ce que les premières décisions des nouvelles autorités syriennes sont d'augure à vous rassurer ?
Bah moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que nous disent nos amis de la société civile syrienne en exil et dans le pays. Ils nous disent qu'il faut se garder de, contrairement à ce que disaient nos interlocuteurs, même si bien sûr personne n'est naïf, de trop de pessimisme immédiat. Ils nous disent que c'est une, comme disait un ami, c'est avec Bachar al-Assad, rien n'était possible. La chape de plomb était sur leurs épaules et sur leurs poumons. Ils ne pouvaient pas respirer, ils ne pouvaient pas bouger. Et là, cette chape s'est levée d'un coup. Et c'est un espoir sans précédent, c'est un moment de joie immense. Une des pires dictatures du monde est tombée. Et on pense en premier lieu à toutes celles et ceux qui ont été injustement emprisonnés, torturés, leurs proches, les victimes de la guerre, les Syriens dispersés dans le monde. Et eux, ils nous disent, ne cédez pas tout de suite aux appels de la critique. Savourons ce moment inoubliable, ce moment qui est vraiment unique dans leur temps. Ensuite, c'est le peuple syrien qui va enfin décider de son avenir. Donc c'est ça qu'on va juger en acte et en fait.
En quoi le peuple syrien aura la main ? Parce que c'est aussi intéressant, depuis la chute du président Bachar al-Assad, on a le sentiment, ce qui, même dans les déclarations des Syriens, c'est une victoire. En quoi c'est une victoire du peuple syrien ?
Parce que y a cette, le peuple s'est battu. Même si aujourd'hui le groupe, et vous l'avez, vos interlocuteurs l'ont appelé, Pierre Boussel et Mohamed l'ont rappelé, bien sûr, cette multiplicité des groupes djihadistes qui aujourd'hui semble avoir remporté la révolution, mais rien n'aurait été possible sans le combat de la totalité des franges de l'opposition, sans ce soulèvement initial de 2011, sans ce qu'a enduré la population. Il faut saluer la société civile syrienne qui, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, s'est battue. Pendant toutes ces années, ils ont continué à appeler à la justice, ils ont documenté, ils ont alerté au péril de leur vie pour que la justice soit faite, pour que nous, la communauté internationale, on puisse les entendre. Et donc aujourd'hui encore, il faut qu'on les écoute. C'est-à-dire que tout ce que nous, on peut faire, c'est nous tenir prêts à leur apporter notre soutien si et quand ils le demanderont. Ils ont une chance d'être aux manettes. Mais encore une fois, on va voir les actes. On va voir les actes, c'est-à-dire que la confiance, pour revenir à votre question, elle sous-entend que les dirigeants vont faire ce que les Syriens attendent d'eux. Mmh. Et aujourd'hui, l'appel énorme, immense, il est cette demande de justice, d'établir la paix et la justice, rétablir une économie fonctionnelle, bien sûr, mais et pour ça, on a besoin d'écouter les Syriens. Donc on va voir si ce pouvoir est en mesure d'écouter la justice, d'appeler la justice et d'écouter les Syriens. Parce que le seul moyen de construire une société qui va apporter la paix et la justice, c'est de construire un système où le peuple décide de son avenir en participant au pouvoir, et un système qui va permettre le contrôle par le peuple de ceux qui exercent le pouvoir. Et ça, c'est une démocratie. Et là, on en est encore un peu loin.
Pierre Boussel, on a le sentiment qu'il y a une confusion depuis la chute du président Bachar al-Assad quant à la joie des Syriens, l'espoir. Est-ce que la joie, c'est la chute de Bachar al-Assad ou est-ce que c'est l'arrivée de HTS au pouvoir ?
Vous savez, ce que serait la joie aujourd'hui en Syrie, c'est du gaz pas cher, c'est de la nourriture.
Il y a déjà des signes, des choses qui... Enfin, l'électricité est revenue dans les premières régions qui ont été libérées avant la chute du président syrien Bachar al-Assad par HTS.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, vous mettez
ce sont des signes encourageants.
Dire que vous mettez du fuel dedans, puis quand il n'y a plus de fuel dans la centrale, voilà, ce sont des signaux, oui, effectivement. Alors après, il faut... HTS, je l'annie, il est malin, il fait beaucoup de politique. Juste pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, juste, c'est un homme qui est complexe. Par exemple, il a su... Je vais revenir sur votre question dans deux secondes. C'est quelqu'un qui a sujet la contestation en interne, notamment sur la question des prisonniers. Il a accepté qu'il y ait malgré tout des manifestations régulières sur Idlib. Il a accepté les manifestations et certaines, effectivement, ont été réprimées de façon qui sont tout à fait condamnables. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste un homme complexe. En fait, effectivement, la Syrie, mais les gens n'en peuvent plus, mais ce dont ils ont besoin aujourd'hui... Alors bien sûr, la liberté, elle est essentielle. L'oxygène politique, reprendre en main son propre... Mais je pense aussi que c'est un élément qui a été désastreux pour Bachar al-Assad, c'est que les gens n'en peuvent plus. Ils veulent pouvoir travailler, les gens, ils veulent pouvoir ne serait-ce avoir une maison, avoir un petit peu d'eau, un petit peu, pouvoir emmener les enfants à l'école sans qu'ils prennent une balle. Regardez la question, on n'en parle plus parce que, entre guillemets, tout le monde s'en moque, mais regardez la question des mines. Vous voyez, je pense que l'urgence, elle est là.
Quel que soit le groupe qui a fait tomber Bachar al-Assad,
l'urgence, c'est...
Les Syriens étaient heureux et avaient de l'espoir. L'espoir, c'est d'abord de voir le régime syrien tomber.
Que ça tombe pour avoir effectivement l'espoir que ça change, mais de façon concrète dans la vie de tous les jours.
Et quand Mohamed Nouraïed dit c'est un groupe islamiste.
C'est un groupe islamiste, absolument, oui.
Donc, et quand Cyril Blin avance le mot de démocratie.
Bah, si vous
est-ce que ces deux mots pourront un jour être compatibles en Syrie?
Si vous attendez une social-démocratie avec des ligues LGBT qui marchent...
Jusque-là, mais...
Non, ok. Alors après, si on veut commencer à réfléchir sur le mot démocratie, pourquoi pas? On peut aussi, alors à ce moment-là, je suis désolé, mais on se dit, est-ce que par exemple la République islamique, on a un parlement avec des avis qui sont divergents, mais qui sont divergents avec des fondamentaux partagés qui sont extrêmement rigoureux sur les préceptes de cette religion, sur ce monothéisme qu'est l'islam. Mais ce que je veux dire, c'est que le débat peut exister, comme il existe déjà en interne dans ces groupes armés à travers les chouras, parce que ces groupes parlent entre eux. Mais si vous voulez, vous pouvez avoir un instrument de dialogue, vous pouvez avoir des avis, vous pouvez avoir des contre-avis, ça c'est une chose, mais le socle qui crée, que ces hommes... pour lesquels ces hommes combattent pour la Syrie de demain, ce socle il est fondamentalement radical. Clairement.
Le débat du jour.
Faut-il faire confiance aux nouveaux dirigeants syriens? La question qu'on pose ce soir, un peu plus de 48 heures après la chute du régime de Bachar al-Assad, et alors qu'aujourd'hui, un chef de gouvernement transitoire a été nommé, qui assurera ses fonctions jusqu'au 1er mars 2025. Mes trois invités, Pierre Boussel, que l'on entend des chercheurs associés à la Fondation pour la Recherche Stratégique, Cyril Blin, directeur des opérations à la FIDH, la Fédération Internationale pour les Droits Humains, et Mohamed Nouraïed, écrivain, conférencier franco-syrien. Je me tourne à présent vers vous, Mohamed Nouraïed. Pour essayer concrètement d'entrer dans le vif du sujet sur ce à quoi on peut s'attendre désormais de la part des nouvelles autorités syriennes, l'envoyé spécial de l'ONU aujourd'hui a demandé à HTS de mettre en œuvre sur le terrain, je cite, ces messages positifs d'unité, puisqu'on l'a dit, il y en a eu ces derniers jours, des messages positifs d'unité. Comment ça peut se traduire? Quelles peuvent être les premières décisions qui permettent de rassurer concernant ce groupe?
Alors, il faut aussi rappeler une chose primordiale, c'est que la révolution syrienne et le renversement de Bachar al-Assad, ça n'est pas que HTS. Il y a également des rebelles qui se sont levés dans plusieurs villes. Je pense notamment à Dera, le berceau de la révolution, où de simples habitants ont repris les armes et ont libéré leur ville. Je pense à Souaïda, où les Druzes l'ont fait également. Et je pense notamment à tous ceux, enfants des camps de déplacés en Syrie, qui ont décidé de prendre les armes et d'aller reprendre leurs terres et leurs maisons. Donc il faut aussi rappeler que HTS n'est pas le seul groupe sur le terrain, on a d'autres factions, on a aussi des habitants qui ont choisi de s'auto-libérer et donc de s'auto-défendre. Maintenant, sur la question de l'unité, je rappelle que depuis 2011, le slogan qui unit la révolution syrienne, c'est « le peuple syrien est un et un seul ». Et à la chute du régime de Bachar al-Assad, devant les églises, devant les mosquées, sur toutes les places, le peuple criait « le peuple syrien est un et un seul ». Donc, dire aujourd'hui que l'unité repose sur les épaules d'un groupe islamiste, c'est infantiliser le peuple syrien. Et justement, on parlait tout à l'heure d'un peuple qui ne voudrait qu'un peu de fuel, un peu de gaz, aller à l'école. Il ne faut pas oublier que la Syrie n'est pas la Libye ni l'Afghanistan. La Syrie, c'est une conscience politique très importante depuis 2011 et bien avant. La Syrie, ce sont des médecins, des avocats, des ingénieurs, un capital humain énorme, de l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et donc des capacités et un savoir-faire étatique qui existe. Et on parlait notamment du retour de l'électricité. L'électricité n'a pas été ramenée par HTS. L'électricité a été ramenée par les secouristes et également par la défense civile syrienne, les casques blancs, qui n'ont rien d'islamiste, rien de radical. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a des inquiétudes, évidemment, mais l'unité, elle appartient au peuple syrien et elle germe en chaque Syrien qui a fait cette révolution. Et on l'a fait pour contrer le discours communautariste de Bachar al-Assad, oui, qui gouvernait via une minorité et imposait sa domination.
Mais quelle marge de manœuvre de la part des Syriens, selon l'attitude, enfin tout dépend malgré tout de l'attitude de HTS. Maintenant HTS est à la tête du pays.
Alors, la représentation politique aujourd'hui,
Pierre Boussel,
qui représente finalement politiquement le peuple syrien aujourd'hui en Syrie?
Alors HTS a le pouvoir militaire. HTS n'a pas le pouvoir, n'a pas l'adhésion idéologique des Syriens. Il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Et je parlais notamment l'année dernière d'occupation islamiste de la Syrie et d'une volonté d'imposer une islamisation à la révolution syrienne, qu'on a toujours refusée par ailleurs. Donc, Il y a également d'autres personnes qu'on ne cite pas depuis la nomination de ce nouveau gouvernement. Il y a quand même l'ancien premier ministre qui était en poste, qui avait fait défection, Riyad Ahjab, qui est un laïc et un démocrate. On a Burhan Ghalioun, qui a été dans le Centre national syrien, qui est également un laïc et un démocrate. Donc on a des personnes capables de se présenter en 2025 et pour dire « nous promouvons une Syrie démocratique, libre et laïque ». Et je pense sincèrement qu'il est important de rappeler cette chose-là, c'est que les Syriens ont vaincu Assad, ont vaincu l'Iran, ont vaincu le Hezbollah et la Russie. Et donc, ce n'est pas d'un groupe terroriste islamiste qu'on va avoir peur désormais. On a fait tomber le mur de la peur en 2011, et je pense que ce mur de la peur sera impossible à reconstruire.
Concrètement, ça veut dire quoi ce que vous dites? Quand vous parlez d'une Syrie laïque, qu'on parle d'un groupe islamiste aujourd'hui qui est à la tête, c'est un choc, ça entre en confrontation, ces deux valeurs-là.
Alors, ça entre en confrontation, ça va traduire évidemment, comment? Mais la période de transition est toujours une période de confrontation. Ouais. On ne peut pas attendre d'un pays meurtri par la guerre et par 53 ans de dictature que du jour au lendemain, il devienne le pays le plus sociodémocrate du monde. On est quand même aussi au Moyen-Orient, où tout le monde a toujours tout fait pour empêcher la création de démocratie. Donc, regardons même la France, la Révolution française qui a duré une centaine d'années. Regardons notre système politique aujourd'hui en France qui est chaotique, on n'arrive pas à avoir un gouvernement stable. Et on veut donner des leçons de morale aux Syriens pour leur dire « faites ceci, faites cela ».
Mais personne ne leur donne des leçons de morale. Bah,
attendez, Pierre Bossel. Oui, je voudrais poser la question à Cyril Blin. Que peut faire HTS, Cyril Blin, face à la myriade, je vais reprendre le mot de Pierre Boussel, myriade, de minorités ethniques qui composent la Syrie, les Kurdes, les chrétiens, les alaouites, pour ne citer qu'eux?
Alors, ce n'est pas vraiment à moi de me mettre dans ces chaussures, mais il y a eu de nombreuses discussions sur le sujet. Notamment, les Nations Unies ont émis une résolution en 2015 qui était issue du groupe international d'appui pour la Syrie, qui mettait déjà à plat un plan d'établissement, de pacification et de démocratie pour être là, en Syrie, qui était très clair, qui demandait d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une fin à toutes les attaques contre les populations. Donc là, c'est un premier test pour lui. On va voir s'il peut envoyer un message fort, sans équivoque, à toutes les factions, à tous les combattants sur le territoire et qui sera entendu pour mettre fin aux attaques illégales, pour mettre fin aux combats. Et on voit qu'il y a encore du travail à faire. Pierre Boussel le disait aussi, il faut aussi permettre le travail des organismes humanitaires à accéder rapidement sans toute sécurité, sans entrave à l'ensemble du territoire. Et puis après, c'est comment est-ce qu'il va ouvrir ce processus politique? Est-ce qu'il va vraiment être ouvert? Est-ce qu'il va être conduit par les Syriens et les Syriennes eux-mêmes? Est-ce qu'il va pouvoir, ils vont pouvoir désigner les gens qui vont les représenter au sein de ce processus transitoire? Est-ce que ça va vraiment être l'éventail le plus large possible d'éléments d'opposition avec une participation effective des femmes, des minorités dans cette autorité de transition? Là, c'est vraiment un test qui est énorme. On va voir si ça arrive. C'est la seule manière pour moi de maintenir le respect de l'unité, de l'intégrité territoriale, du caractère non sectaire de la Syrie historique. On va voir s'il arrive à faire ça.
Pierre Boussel, comment on peut espérer qu'en Syrie ne se passe pas ce qui s'est passé partout ailleurs où des régimes autoritaires, si ce n'est dictatoriaux, sont tombés? L'Irak, l'Afghanistan, les exemples sont légion, hein, l'Égypte, la Tunisie, le printemps arabe.
Soyons positifs. Mais je parle sous votre gouverne à tous, le seul moyen de s'en sortir, c'est de trouver un modèle. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que fait HTS? HTS arrive en disant, nous, on a trouvé la solution, puisqu'on a réussi à remporter le combat. Il n'y a pas eu beaucoup de batailles, mais quand même, on a réussi à monter jusqu'à Damas. Donc voilà, nous, notre modèle HTS, c'est un modèle qui est de type islamiste, radical. Bon, pas dans l'excès total et absolu, mais qui est une radicalité assumée. La force exprimée du peuple syrien, c'est un contre-modèle qui devrait être un modèle syro-syrien, surtout, et ça je pense que tout le monde sera d'accord, ne pas reproduire l'exemple libanais, qui est un exemple qui nous attriste tous, et surtout, n'oublions pas en imagerie, en image, en symbole, ce qui s'est passé en Irak, où on a eu des créations de milices, Hateb Hezbollah, Ashab al-Shaawi, qui se sont levés pour combattre contre le groupe État islamique. Et quand la paix est revenue, on s'est retrouvé avec ces milices, on ne sait pas quoi en faire. Donc si demain on a un système politique qui s'établit en Syrie, les hommes qui ont pris les armes, où vont-ils aller?
En gros, ce que vous me dites, c'est que le HTS n'a d'autre choix que d'adoucir son discours que vous disiez vous-même islamiste radical, ne serait-ce que pour aussi satisfaire, on n'a pas parlé encore de l'extérieur, mais notamment l'Occident. Encore une fois, HTS est classé comme terroriste par de nombreuses capitales à l'étranger.
Soit Al-Julani écoute la première partie de sa vie, il revient à cette période damascène, il se souvient de la complexité de Damas, il n'était pas extrémiste au départ. Ok, soit il continue à faire un travail sur lui-même, et alors là c'est l'option positive à laquelle on veut tous y croire, soit on se dit que les 20 années qui ont suivi, qui sont comme des années empreintes de violence, voire d'hypra-violence, l'ont façonné, l'ont modelé, et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un chef de guerre, oui. Est-ce que c'est un chef pour un État syrien, à la tête d'un nouveau modèle? On peut vraiment, vraiment se poser la question.
Cyril Blin, vous, en tant que directeur des opérations à la FIDH, quel est votre sentiment à l'égard de ce nouveau dirigeant syrien? Vous pensez qu'il monte patte blanche pour rassurer l'étranger, ou qu'il y a une vraie volonté de s'adapter à la nouvelle donne syrienne?
Je pense qu'on a vu effectivement l'apparition d'un homme politique, donc qui mettent tous une forme de jeu dans leur apparence et dans leur vocabulaire. Est-ce que c'est relève de la taquilla ou est-ce que c'est autre chose? Je ne suis pas en mesure de le dire. C'est pour ça que je vous dis vraiment, on va juger sur les actes. Pour nous, s'il ne propose pas aux Syriens ou aux Syriennes de troquer la stabilité et la réconciliation contre la justice, ce qu'il faut, c'est une réconciliation sans justice, ce n'est pas une garantie d'une paix durable. Donc, pour mettre fin au cycle de violence, il va falloir qu'ils mettent en place des systèmes de justice, qu'ils rétablissent la justice, qu'il va falloir qu'ils ouvrent ce processus politique le plus largement pour qu'il soit inclusif le plus possible. Quand il aura mis en place ces éléments-là, là, on pourra vraiment avoir de l'espoir et une discussion.
On peut peut-être s'appuyer, même si le temps tourne et qu'on arrive bientôt à la fin de ce débat, Mohamed Nouriad, sur ce qui s'est passé à Idlib et ce que HTS a fait à Idlib, que cette région qui était contrôlée par HTS et qui est considérée finalement comme une des régions les mieux gérées de Syrie, avec un exécutif semi-technocratique qui est bien à l'opposé, pour le coup, du système totalitaire, du groupe État islamique ou du djihadisme.
Alors, je pense sincèrement qu'il y a aussi une autre chose à rappeler, c'est la résilience du peuple syrien et sa capacité à s'adapter à n'importe quelle situation. Donc certes, HTS a su, on va dire, tenir Idlib et a voulu faire des améliorations, voulu mettre en place des services publics, mais il faut savoir que ces services publics étaient conditionnés. Moi, je viens d'une ville, de la banlieue d'Alep, qui s'était opposée à Al-Nusra et puis à HTS. Et la réponse d'HTS, c'était « vous ne voulez pas de notre autorité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous retirer l'hôpital, vous retirer la boulangerie, et tout vous retirer, et en fait, vous allez devoir venir dans nos zones et, pour en fait, avoir accès aux soins et pour avoir accès à l'alimentation. » Il ne faut pas oublier, il ne faut jamais oublier le fait que HTS reste un résidu d'Al-Nusra avec des idées d'Al-Qaïda, et surtout qu'il y a des combattants étrangers, des djihadistes étrangers qui sont encore en Syrie. Quand on voit des vidéos de personnes qui parlent en français, qui décrivent...
Ils sont très peu nombreux, c'est à peine une dizaine. C'est
oui, vraiment, alors c'est il y a des Français, il y a des Tchétchènes, il y a des Irakiens,
il y a des Ouïghours. Non mais d'accord.
Je pense qu'il y a quand même une ingérence étrangère, et moi je considère que HTS n'est pas un mouvement national syrien dans son idéologie, parce que l'idéologie du peuple syrien n'a jamais été celle de l'islamisme.
Et on entend vos réserves, et pour répondre à la question, est-ce qu'il faut faire confiance aux nouveaux dirigeants syriens, bien l'avenir le dira, mais on entend vos inquiétudes à tous les trois, et surtout ce risque de confrontation avec les attentes de la population syrienne, pleine d'espoir après la chute de Bachar al-Assad. Merci beaucoup à vous trois, Mohamed Nouriad, écrivain, conférencier franco-syrien, Pierre Boussel, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, et Cyril Blin, directeur des opérations à la FIDH. Voilà, c'est la fin de ce débat du jour. Dans une minute, ce sera le grand journal du soir d'Adrien Delgrange. Et puis à 18h30, temps universel, il est déjà à côté de moi. Zéphirin Quadio, bonsoir.
Bonsoir Romain.
La première édition d'Afrique Soir à suivre. Un coup d'œil au programme ce soir, avec un retour sur les résultats de la présidentielle au Ghana.
Absolument, scrutin remporté, je vous le rappelle, par John Mahama avec un peu plus de 56% des suffrages. Nous ferons le point sur les enseignements de ces résultats publiés hier par la commission électorale.
Également dans l'actualité africaine, une journée meurtrière au Soudan.
Au moins 65 personnes ont péri dans des bombardements sur sur Khartoum, la capitale, bombardement attribué aux forces paramilitaires des violences que condamne l'organisation Emergency Lawyers.
Et puis au Tchad, des victimes de la répression sanglante des manifestations du 20 octobre 2022 déposent plainte devant les tribunaux de N'Djamena.
Oui, répression qui a fait 128 victimes selon la Commission nationale des droits de l'homme. Les organisateurs de la mobilisation parlent de plus de 300 personnes tuées.
Eh bien, à tout à l'heure, dans 30 minutes, Afrique Soir, la première édition. Et pour l'heure, dans 30 secondes, c'est le grand journal du soir sur RFI.